Il est 18h sur France Culture, l'heure du journal. Présenté ce soir par Laura Lavenne, bonsoir.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Un maire ne peut pas interdire les pesticides autour des habitations de sa commune. Le tribunal administratif de Rennes annule l'arrêté du maire de Langouette. Les explications de Florence Turme dans un instant. Une promesse à plusieurs millions d'euros. Lubrizol s'engage à indemniser les agriculteurs. Le Premier ministre Édouard Philippe y veillera personnellement. Il souhaite un dédommagement complet et rapide de tous les acteurs économiques. La cellule d'investigation de Radio France s'est penchée sur les repas distribués dans les crèches d'Île-de-France par la société Elior. Sa conclusion frôle le scandale sanitaire. Des os, du caoutchouc et même des vis ont été retrouvés. Ce sera l'enquête de ce journal. La contestation irakienne toujours dans la rue, toujours endeuillée. Plusieurs personnes sont mortes aujourd'hui. Nous serons à Bagdad où se concentrent les manifestations. C'était une décision très attendue. Le tribunal administratif de Rennes annule l'arrêté anti-pesticides pris par le maire de Langouette en Ille-et-Vilaine. Daniel Cueff, qui ne cache pas sa déception, voilà qui donne le ton aux dizaines de communes françaises qui ont pris un arrêté similaire, avec à chaque fois la volonté de protéger leurs administrés, d'interdire l'utilisation du produit phytopharmaceutique dans un périmètre de 150 mètres autour des habitations. Florence Turme, bonsoir.
Bonsoir.
La justice a tranché, elle estime qu'un maire n'est pas compétent en la matière.
Alors si l'on veut synthétiser la décision du tribunal, on peut reprendre deux phrases de ce jugement. Le ministre de l'Agriculture est chargé de la police administrative des produits phytopharmaceutiques. Le maire d'une commune ne peut en aucun cas s'immiscer dans l'exercice de cette police spéciale par l'édiction d'une réglementation locale. Autrement dit, le maire n'est pas compétent en la matière. Cela suffit à fonder ce jugement et l'avocat de la commune déplore aujourd'hui la pauvreté de l'argumentaire. Cette question de la compétence du maire est pourtant bien au centre d'un véritable débat de droit. Il avait donné lieu à un long développement du rapporteur public lors de l'audience du 14 octobre dernier. Nous n'évoquons pas la légitimité du maire, mais la légalité de cet arrêté, avait précisé Marie Touré, en faisant même référence à l'écrivain engagé Stéphane Hessel. Cet arrêté est-il légal? Est-il conforme au droit positif, au droit tel qu'il est écrit? Le tribunal a repris ses arguments en répondant par la négative, sans aller jusqu'à statuer sur la notion de péril imminent, invoquée par le maire, mais réfutée par le préfet et le rapporteur public. La commune de Langouette a maintenant 2 mois pour faire appel de ce jugement. Le premier, il faut le rappeler, le premier jugement rendu sur le fond. Mais quoi qu'il en soit, le débat ne s'arrêtera pas là. La question de la seule légalité sur laquelle la justice s'est concentrée a finalement ouvert le champ de la légitimité des actions politiques. Une centaine de communes a déjà pris des arrêtés similaires et le gouvernement a lancé une concertation publique sur les distances à respecter entre les zones d'épandage et les habitations. On devrait en connaître les résultats d'ici la fin du mois prochain.
Florence Turme. Lubrizol s'engage à indemniser les agriculteurs. Le PDG du groupe américain Eric Schnur et son homologue français Frédéric Henry étaient ce matin à Rouen, un mois après l'incendie de l'usine. Ils ont acté la mise en place d'un fonds de solidarité pour les producteurs qui ont perdu tout ou partie de leur production. Un préjudice global estimé entre 40 et 50 millions d'euros selon les chiffres du ministre de l'Agriculture Didier Guillaume. Les précisions d'Étienne Monin.
Il y a dans ce déplacement à la fois le geste politique, montrer que l'État est aux côtés des acteurs touchés par la catastrophe, et il y a ce nouveau chapitre qui s'ouvre avec la signature de la convention d'indemnisation. C'est le premier pas vers une compensation financière. Elle n'engage pas l'État. Lubrizol est considéré comme le responsable de la sécurité sur son site. La convention a donc été signée ce matin entre le PDG de l'entreprise, Eric Schnur, et deux types de victimes. D'un côté les agriculteurs et de l'autre côté les collectivités locales et le monde de l'entreprise. Pour autant, le montant n'a pas été dévoilé par le Premier ministre Édouard Philippe.
Lubrizol s'est engagé, et je pense que c'est plus important encore qu'un montant, sur le fait que ceux qui ont subi un dommage seront indemnisés. C'est-à-dire que tous ceux qui sont dans les zones concernées ou à la frange des zones concernées, s'ils peuvent établir qu'ils ont subi ce dommage, notre objectif c'est de faire en sorte qu'ils soient indemnisés. Et c'est ça qui est important. Ce n'est pas la limite maximum, c'est le fait que chaque personne puisse être indemnisée.
D'après Édouard Philippe, les premières estimations de la perte de revenus pour les agriculteurs sont autour de 5 à 6 millions d'euros. Le président de l'association des commerçants des vitrines rouennaises considère qu'en moyenne, 30% du chiffre d'affaires a été perdu depuis le début de la catastrophe.
Et précisons que le premier ministre Édouard Philippe, qui était présent, a assuré qu'il serait extrêmement vigilant sur l'indemnisation complète et rapide des acteurs économiques par Lubrizol. Les agriculteurs réunionnais auront, eux aussi, leur fonds d'aide. Emmanuel Macron, qui achève son voyage à La Réunion, leur a promis 45 millions d'euros en faveur notamment des exploitants de canne à sucre et de bœuf. Qu'y a-t-il dans les purées, les plats préparés, servis aux bébés, aux jeunes enfants dans les crèches d'Île-de-France ? Des légumes, de la viande, mais aussi des corps étrangers, des os, des vis et même du plastique. C'est la conclusion effarante de l'enquête menée par la cellule investigation de Radio France auprès de la société Elior qui confectionne ces repas. Bonsoir Anne Brunel.
Bonsoir.
Vous avez enquêté dans les coulisses de cette société, la société Elior, numéro 1 de la restauration collective en France.
Oui, Elior, fournisseur d'entreprises, d'hôpitaux, de maisons de retraite, etc., fabrique aussi quotidiennement 10 000 repas environ pour les bébés à la chaîne dans une seule et unique cuisine centrale à Thiès dans le Val-de-Marne. Repas livrés à toutes les crèches franciliennes clientes de la société. Il se trouve que certains responsables de ces établissements se sont plaints, comme le directeur d'une crèche de Seine-Saint-Denis qui, le 17 octobre 2018, fait une curieuse découverte dans la purée de betterave fournie par Elior. Il adresse aussitôt à l'entreprise un courriel que nous avons fait lire.
Nous sommes sous le choc. Nous avons trouvé une vis dans la purée des enfants. La barquette était bien fermée jusqu'au moment de la consommation. Il y a donc un grave problème dans votre processus de production qui peut avoir des conséquences sur la santé des enfants.
Oui, vous avez bien entendu, c'est une vis dans la purée et il ne s'agit pas d'un incident isolé. Il s'en est produit encore au moins jusqu'en janvier 2019, comme le révèlent d'autres messages échangés au sein d'Elior que nous avons pu consulter. On y parle d'os, de morceaux de céramique ou encore de joints caoutchouc.
Et les dysfonctionnements ne s'arrêtent pas là, Anne Brunel.
En effet, selon nos informations, dès 2017, la cuisine en cause était classée à risque par Elior, risque de contamination bactériologique. On parle de listeria et de bacillus cereus, deux bactéries qui peuvent provoquer des diarrhées, donc un risque potentiel pour de très jeunes enfants. Une situation d'ailleurs connue au sein de la société, comme le montre ce courriel d'un responsable hygiène alimentaire d'Elior, daté du 2 août 2018, que nous avons fait lire.
Les résultats bactériologiques de la production de Thiès nous alertent ces deux derniers mois, notamment au niveau des purées où la présence de Bacillus cereus est récurrente. Cette bactérie peut être responsable de toxi-infections alimentaires, d'autant plus que les convives sont ici des bébés.
Le risque d'intoxication alimentaire est donc connu d'Elior, mais alors comment la question est-elle traitée en interne ?
Eh bien, la chose est prise très au sérieux, puisqu'à l'été 2018, une équipe de contrôle se rend sur place pour vérifier que les procédures de fabrication sont bien respectées. Et voilà ce qu'ils auraient constaté, selon cet ancien cadre très bien informé.
Des techniciens qui sont allés à plusieurs reprises sur la cuisine centrale de Thiès ont remonté leur constat que les procédures de contrôle de température, des contrôles de temps de nettoyage, des contrôles de situation de matériel après le nettoyage pour vérifier que les matériels sont propres, ces procédures-là n'étaient pas respectées.
Et je précise que des photos ont été prises de ces nettoyages défectueux, mais aussi des photos de tous les objets retrouvés dans la purée des nourrissons.
Anne Brunel, vous avez interrogé la direction d'Elior, mais que répond-elle à ces accusations ?
Eh bien, elle répond qu'une vaste désinfection de la cuisine a eu lieu et que la formation du personnel au démontage des outils a été renouvelée. Et à propos de ces corps étrangers retrouvés dans les purées, la société explique que début 2020, les repas seront fabriqués dans une autre cuisine, à Fresnes, un établissement hyper moderne et mieux adapté, et qu'on y installera un détecteur de métaux en bout de chaîne de production afin d'éviter de nouveaux incidents.
Anne Brunel de la cellule investigation de Radio France. Votre enquête détaillée avec photos et documents à l'appui, dont les réponses de la société Elior, sont à retrouver sur franceculture.fr. L'agence du médicament avait donné son feu vert au cannabis thérapeutique. L'Assemblée nationale confirme. Elle a voté à main levée l'autorisation d'une expérimentation de l'usage médical du cannabis. Le but est de tester auprès de plusieurs milliers de patients l'intérêt du cannabis, de voir s'il soulage certaines douleurs et aussi d'évaluer son éventuelle nocivité auprès des malades, Solène Lehen.
Pour lancer formellement l'expérimentation, dont le principe est acquis par les autorités sanitaires depuis des mois, il fallait un cadre législatif. Avec le vote des députés, c'est désormais fait. L'expérimentation devrait débuter au premier semestre 2020. Les grands principes ont déjà été dessinés par un comité scientifique. 3000 patients vont pendant 2 ans tester le cannabis thérapeutique. Des malades volontaires souffrant de douleurs qui ne peuvent être soulagées par des médicaments classiques. Patients atteints de cancer, de sclérose en plaques, des épileptiques sévères ou encore des malades en situation palliative. Ce sont des médecins spécialistes formés qui prescriront le cannabis thérapeutique. Il sera délivré par des établissements de santé. Il s'agira de produits importés, notamment de gélules ou encore de capsules d'huile, diversement dosées entre CBD et THC, les composants du cannabis. En aucun cas, le cannabis ne sera fumé. Avant de débuter cette expérimentation, il reste encore aux autorités sanitaires à définir quels centres de santé, quels médecins, quels patients y participeront et à sélectionner les fournisseurs de cannabis thérapeutique.
Solène Lehen pour France Culture. La trottinette a désormais sa place dans le code de la route. Un décret publié ce matin au journal officiel encadre son utilisation. Vitesse limitée à 25 km/h, circulation interdite sur les trottoirs ou encore âge minimum de 12 ans. Ces règles entrent en vigueur dès demain. Elles seront, en cas de non-respect, sanctionnées par des amendes. Le nombre de demandeurs d'emploi en France est en baisse, moins 0,9% au troisième trimestre. 5,5 millions de personnes sont toujours inscrites à Pôle emploi. Des chiffres encourageants pour Éric Heyer, docteur en sciences économiques et membre de l'Observatoire français des conjonctures économiques.
C'est dans la continuité des derniers chiffres et un peu dans la continuité des bonnes nouvelles en termes de création d'emplois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'économie française crée aux alentours de 220 000 emplois en rythme annuel. On constate que à peu près toutes les catégories profitent de cette baisse. À l'exception, plus même, il faut noter des jeunes qui, au cours de ce trimestre, n'ont pas profité de cette baisse du chômage. Il est encore trop tôt pour prendre ce dernier chiffre comme une nouvelle tendance, mais on peut penser aussi que l'arrêt et la suppression des emplois aidés était un frein quelque part aux bonnes nouvelles pour les jeunes. Et donc, globalement, toutes les catégories, que ce soit les hommes, les femmes et les seniors, profitent de cette baisse du chômage. Si on doit être surpris, c'est plutôt sur les créations d'emplois qui restent extrêmement dynamiques, alors que la croissance économique est en ralentissement et qu'on devrait plutôt avoir des taux de croissance à 1,3. Traditionnellement, avec des taux de croissance à 1,3, l'économie française crée beaucoup moins d'emplois.
L'analyse de l'économiste Éric Heyer au micro de Thomas Larabie. Et on rappelle que la réforme controversée de l'indemnisation chômage entre en vigueur vendredi prochain. En Irak, les manifestants de retour dans les rues, des milliers de personnes qui réclament la chute du régime accusé de corruption. Un mouvement de contestation contre le gouvernement d'Adel Abdul Mahdi qui a commencé au début du mois et fait plus de 150 morts. Il reprend après une trêve de 2 semaines avec toujours les mêmes arguments, le manque de services ou encore le chômage. Sur place, la correspondance de Lucille Wasserman.
C'est par centaines que les Irakiens se rassemblent ce vendredi, place Tahrir Square, épicentre de la contestation. 2 semaines après la fin des récentes manifestations, ces Baghdadis ne demandent plus de meilleurs services ou moins de chômage, mais la chute du régime, comme l'explique Ahmed, 24 ans, un drapeau irakien sur les épaules.
On est venu ici pour protester car nous avons perdu notre pays. Nous sommes à la recherche de notre pays. On ne veut pas plus d'électricité, plus d'eau. Non, on veut la liberté.
Régulièrement, des tirs de gaz lacrymogène ou des grenades assourdissantes créent des mouvements de panique parmi les manifestants. Ils ont peur des forces anti-émeutes, disent-ils, ou des snipers qui avaient fait irruption dans les rues de Bagdad lors des derniers rassemblements. Pour Kamal, la cinquantaine, cheveux grisonnants, le gouvernement tient un double discours sur ces violences, insupportables, dit-il.
Le Premier ministre a annoncé officiellement que les autorités n'arrêteraient aucun manifestant, mais ils nous ont attaqués dès 9h, 9h30 du matin. Vous entendez ? On dirait que nous sommes sur une ligne de front ici, en train de combattre un ennemi.
La situation est devenue de plus en plus tendue au cours de l'après-midi et les violences auraient déjà fait plusieurs victimes, selon des témoins sur place.
À Bagdad, Lucille Wasserman. Le Liban à l'arrêt, paralysé quant à lui depuis 2 semaines. Les manifestants, là aussi, réclament le départ de l'ensemble de la classe politique. Le bras de fer se tend entre le pouvoir et la rue qui réclament la chute d'un régime jugé corrompu. Le Botswana reconduit son président, arrivé au pouvoir l'an dernier après la démission de son prédécesseur. Le chef d'État Masisi est élu pour 5 ans. Son parti au pouvoir depuis l'indépendance il y a 50 ans emporte la majorité au Parlement. Un drame et toujours d'importantes zones d'ombre en Angleterre. L'enquête sur les 39 corps retrouvés dans un camion frigorifique dans l'Essex se poursuit. 3 jours après la découverte macabre, on en sait un peu plus sur l'itinéraire du camion. On sait aussi que 2 autres personnes, en plus du chauffeur, sont actuellement en garde à vue. Le point avec Antoine Gignot.
Ils sont 2, un homme, une femme, âgée de 38 ans et originaire de Warrington, dans le nord de l'Angleterre. Arrêtés après plusieurs perquisitions, ils ont été placés en garde à vue, comme le chauffeur du poids lourd, et mis en examen pour trafic d'êtres humains et homicide involontaire. En parallèle, les enquêteurs tentent de reconstituer le parcours du camion. La remorque a été louée le 15 octobre à une société irlandaise qui l'a louée à une deuxième société. Elle est ensuite partie par la mer vers le Pays de Galles, puis la France et la Belgique, Dunkerque, Lille et Bruges. Les relevés de position GPS montrent 2 allers-retours entre le Royaume-Uni et l'Europe continentale entre le 17 et la nuit du 22 au 23 octobre où les corps des 39 personnes ont été retrouvés. Des victimes qui, contrairement aux premières annonces de la police, ne seraient pas forcément chinoises. Les médias britanniques publient les témoignages de proches de migrants vietnamiens qui ont disparu.
Les résultats des premières autopsies devraient nous parvenir d'ici peu. Selon la police, l'identification formelle des victimes sera une partie longue et cruciale de cette enquête. On reste en Angleterre où le Brexit ne cesse d'être repoussé. Le Brexit ou les décisions qu'il concerne. Aujourd'hui, ce sont les ambassadeurs des 27 pays de l'Union européenne qui ont décalé à la semaine prochaine une décision sur la durée d'un nouveau report. Une façon de jouer la montre et de laisser un peu plus de marge pour que Boris Johnson puisse obtenir des élections anticipées. Des poubelles qui débordent, des transports en commun qui ne fonctionnent pas bien. À Rome, la gestion des services publics est devenue catastrophique. De l'avis des syndicats qui appellent aujourd'hui à la grève dans la capitale et dans tout le reste du pays. Le reportage de Bruce de Galzin.
Alessia a 27 ans, elle vit à Rome et ne supporte plus de ne pas savoir quand elle pourra prendre son métro. Et si ces ordures seront bel et bien ramassées?
C'est un scandale dans mon quartier. Il y a au moins 5 stations de métro avec des escalators qui ne fonctionnent pas. La station Barberini dans le centre est fermée depuis presque un an. Et les déchets, j'ai plein de photos tellement la situation est scandaleuse. C'est vraiment triste pour les touristes aussi.
Car même dans le cœur de Rome, les poubelles débordent. L'entreprise publique censée les ramasser est mal géré, dénonce Federico. Il est employé par cette société qui dépend de la mairie.
On ne peut pas s'en prendre à nous, les employés, car on reçoit des ordres. Et malheureusement, dans la périphérie, où il y a beaucoup d'habitants, la gestion des déchets se fait à la légère, alors qu'il y a quand même plus d'attention pour le centre-ville, où se trouvent les quartiers riches de la ville.
Et la coupable est toute trouvée, c'est la maire 5 étoiles de Rome, Virginia Raggi. Sergio Ianello du syndicat WIL, l'Union italienne du travail.
Rome n'est absolument pas gérée par Virginia Raggi. Cette ville qui a tellement de potentiel perd du terrain face à Naples, Milan, toutes les villes d'Italie.
Aujourd'hui, tous les syndicats ont lâché la maire de Rome qui perd de précieux soutiens.
La correspondance à Rome de Bruce de Galzin. Le Fonds vert pour le climat reconstitué 10 ans après sa création. Les pays signataires de l'accord de Paris sur le climat promettent une enveloppe de 10 milliards d'euros. Une aide pour les pays en développement dans leur transition vers un modèle de croissance durable. De quoi lutter contre le réchauffement climatique. Voilà qui devrait faire plaisir à Greta Thunberg. Le nom de la jeune activiste pour le climat a été donné à un insecte, un minuscule coléoptère couleur miel qui a été découvert par un entomologiste du musée des sciences naturelles de Londres, Michael Darby de son nom, qui se dit très impressionné par le travail de la militante. Il voulait rendre hommage, je cite, à sa contribution exceptionnelle aux questions environnementales. La météo, demain samedi, le temps sera gris sur une grande partie du pays avec du brouillard qui devrait se dissiper en fin de matinée. Douceur et soleil seront de retour dans l'après-midi sur la plupart des régions, sauf peut-être en Bretagne, dans la Manche et le Cotentin. De la pluie est attendue dans la journée jusque dans la soirée. Les températures minimales iront de 4 à 10 degrés. Les maximales atteindront 17 à 22 degrés sur la moitié nord et 20 à 25 degrés sur la moitié sud jusqu'à 26 ou 27 degrés sur le sud de l'Aquitaine.